Rudy, bonjour Rudy. Bon, je viens aujourd'hui te répondre à la question que tu m'avais posée concernant l'amour du Créateur pour le monde, l'amour du Créateur pour les hommes. Et tu avais dit dans ta question que tu savais que l'Éternel ne nous aimait pas et qu'il ne nous détestait pas non plus. Puisque je t'avais toujours dit que l'amour de l'Éternel pour le monde, pour l'humanité, n'est pas un amour sentimental, mais un amour connaissantiel. Comment se manifeste l'amour du Créateur pour le monde? La réponse nous est donnée dans Jean 3,16. Il y est dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui est la vie éternelle. La première question qui nous vient à la lecture de ce passage, c'est qui est ce Fils? Qui est ce Fils? Qui est ce Fils unique? Nous avons la réponse dans Ésaïe 9, 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Première question. Qui est son fils unique? La réponse, à travers ce verset, nous est donnée comme suit. C'est le Père éternel, qui est notre Dieu puissant, qui est le prince de la paix, celui, le Fils unique que Dieu nous donne. Déjà ici, vous comprenez que le Créateur n'est pas le Père éternel, mais le Père éternel est son Fils unique qui nous donne afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et c'est le Père éternel qui est le prince de la paix, notre Dieu puissant, et non quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Et ce Fils unique, le Père éternel, c'est celui qui est aux cieux. Le Père qui est aux cieux n'est pas le Créateur, mais le Fils unique du Créateur. Déjà ça, tu le tiens. Et puis, on nous dit ceci, que c'est sur ce Fils, sur l'épaule de ce Fils que repose la domination. Où Dieu parle-t-il de domination? À qui donne-t-il la domination? La réponse est dans Ésaïe 55, 3 à 5. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. C'est David qui a été établi par le Créateur comme chef et dominateur des peuples. C'est donc David qui est le Père éternel, sur l'épaule duquel repose la domination. Et c'est donc David, le Père éternel, qui nous apporte l'alliance éternelle, ou en d'autres mots, la vie éternelle. Mais vous devez retenir ici que ce David n'est pas le père de Salomon, mais c'est plutôt David le pasteur, comme décrit dans Ézéchiel 34, versets 22 à 24. Il dit ceci in extenso: je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. À la lueur de ce passage, tu retiens maintenant très bien que nous n'avons qu'un seul prince que le Seigneur met par devant nous, c'est David, son prince qui doit être au milieu de nous. ses brebis. Et nous avons qu'un seul Père éternel, c'est David, et personne d'autre. Et ce David vient nous apporter la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle? La réponse nous est donnée par Jésus dans Jean 17, 3. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Déjà ici, c'est Jésus qui parle dans Jean 17, 3. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Donc, c'est le seul vrai Dieu qui a envoyé Jésus. Maintenant, lorsque quelqu'un dit, ce n'est pas le seul vrai Dieu qui a envoyé Jésus, mais c'est Jésus qui est le seul vrai Dieu, en ce moment-là, il est en train de contredire Jésus, il fait passer Jésus pour un menteur. Il fait passer Jésus pour un menteur. Donc, quelqu'un qui dit que, déjà à ce niveau, que Jésus, c'est le Fils unique de Dieu, ou bien c'est un menteur, ou bien c'est un ignorant. Car la Bible elle-même nous renseigne que le Fils unique de Dieu, qu'il a envoyé au monde, c'est le Père éternel. C'est lui le prince de la paix. Ok? Alors, qui ce Père nous a-t-il envoyé? Le Père nous a envoyé qui? Réponse dans Jean 14, 24. Jésus dit ceci. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je répète. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alors, quand Jésus lui-même dit que la parole qu'il enseignait ne venait pas de lui, mais du Père qu'il avait envoyé. Alors, quand quelqu'un vient dire que Jésus est la parole de Dieu, alors que lui-même il déclare que cette parole n'est pas de lui, mais du Père qu'il a envoyé, ou bien cette personne est en train de mentir, ou tout simplement la personne est ignorante. Alors, qui est Jésus alors? Jésus, c'est celui que le Père a envoyé au monde pour qu'il nous donne sa parole. Jésus est venu nous donner la parole du Père éternel, qui est le Fils unique de Dieu. En fait, le Père qui est une parole ne peut nous envoyer qu'une parole. Et Jésus était le porteur de cette parole divinité. Donc le Père éternel est notre Dieu puissant, pendant que le Créateur, lui, est l'Éternel Tout-Puissant. Alors, qui est en fait ce Père éternel que nous devons appeler Dieu puissant sur ordre du Créateur? La réponse se trouve dans Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, si la parole est Dieu, il s'agit donc d'une parole divinité. Ça ne peut pas être un quelconque être humain. La parole qui est Dieu, c'est donc une parole divinité. Cela veut dire, le Père éternel, notre Dieu puissant, est donc la parole divinité que le Créateur nous envoie. Lorsque le Père éternel nous envoie à son tour son Fils, le Fils d'une parole divinité ne peut être qu'une parole divinité. Donc maintenant, la vie éternelle, c'est la connaissance de la parole divinité Père éternel, entendez aussi David, le pasteur, et la parole divinité Fils qui nous a donné par Jésus. Donc la vie éternelle veut dire la connaissance éternelle, la connaissance de la parole éternelle, qui n'est autre que David le pasteur, David le Père éternel. Ainsi donc, le Créateur nous a envoyé sa parole divinité Père éternel, son Fils unique, afin que nous ayons la connaissance éternelle. La parole divinité que le Père avait envoyée par Jésus n'était qu'une eau sans esprit, une chair sans esprit, une lettre sans esprit, une parole divinité sans la connaissance, une parole sans vie. C'est pourquoi il nous avait promis l'esprit, c'est-à-dire la connaissance, pour donner vie à sa parole divinité fils. La parole divinité fils, vivifiée ou ressuscitée, s'appelle donc le Saint-Esprit ou la sainte connaissance sans ignorance associée. En clair, l'amour de Dieu pour le monde se manifeste lorsqu'il met à notre disposition la connaissance éternelle, le Père éternel, dont émane la révélation Saint-Esprit. Ainsi, par rapport à l'amour de Dieu, que devons-nous faire? Nous devons tout faire pour demeurer dans son amour, dans sa connaissance éternelle. Nous devons tout faire pour demeurer dans son amour, dans sa connaissance éternelle. Lorsque le Créateur dit qu'il nous aime d'un amour éternel, vous comprenez maintenant cet amour éternel. Nous sommes dans l'amour éternel de Dieu lorsque celui-ci a mis à notre disposition sa connaissance éternelle, qui est le Père éternel. Alors maintenant, la manifestation de l'amour des hommes vis-à-vis du Créateur, c'est d'apprendre ce Dieu puissant qui met à notre disposition la connaissance éternelle et la mettre en pratique inlassablement. Car c'est alors et alors seulement que nous le glorifions, nous le louons et l'adorons. Louer le Seigneur, adorer le Seigneur, ce n'est pas chanter et danser comme des diablotins, car le Dieu Tout-Puissant qui nous donne, le Dieu Puissant, pardon, qui nous donne, c'est une parole divinité. On ne peut donc chanter ou danser pour une parole divinité qui n'entend pas et qui ne voit pas. Et le Fils avait déclaré dans Jean 14, 23 ceci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure sur lui. Qui sont-ils, le Père et le Fils, qui viendront faire leur demeure dans un être humain? Il ne s'agit pas ici des êtres individuels, éthérés ou invisibles, non. Le Père et le Saint-Esprit, c'est-à-dire la connaissance divinité Père éternel et la connaissance divinité Saint-Esprit, ce sont ces paroles-là qui peuvent venir demeurer dans le cerveau d'un être humain. Dans un premier temps, pour lutter contre la bête, pour ôter l'image de la bête, la marque de la bête, c'est la révélation Saint-Esprit qui est la parole divinité glorifiée qui vient habiter dans le cerveau de celui qui l'accepte. Et dans un second temps, lorsqu'il faudra combattre Gog et Magog, la révélation Père éternel viendra également demeurer dans le cerveau d'un être humain. C'est en ce moment-là que cet homme peut dire qu'il a la vie éternelle. Il ne s'agit nullement ici de la vie éternelle des corps mortels. Je vous l'ai déjà dit, je le dis aujourd'hui, je continue à le répéter. La vie éternelle des corps mortels est une impossibilité éternelle. La seule résurrection rendue possible par l'Éternel, c'est la résurrection de l'âme qui accepte la parole, la révélation divine, Fils revivifié par l'Esprit de vie qui n'est autre que la révélation Saint-Esprit. Ainsi, tu comprends que l'Éternel, qui n'est pas un être humain, le Créateur qui n'est pas un être humain, il ne peut pas nous aimer d'un amour sentimental. Dit qu'il ne nous aime pas, c'est faux. Mais son amour à lui pour nous, c'est tout simplement la mise à notre disposition de sa connaissance éternelle. Car celui qui a la connaissance éternelle a la vie. Et quelle vie? La vie éternelle. Tu comprends maintenant que lorsque le Père dit que je mets devant vous la vie et la mort, c'est-à-dire il met devant nous la connaissance éternelle et les ignorances éternelles. Il nous demande de choisir la connaissance éternelle, c'est-à-dire la vie, au détriment de la mort qui n'est autre que l'ensemble des fausses connaissances divines. Voilà l'amour de Dieu pour l'humanité. Et je crois que entre aimer quelqu'un de manière sentimentale et aimer quelqu'un de manière telle que vous puissiez lui donner la connaissance, l'amour connaissantiel est le véritable amour. Même dans notre vie, dans la vie physico-matérielle ou sociale, si tu as des enfants, tu peux les aimer sentimentalement en tant qu'un être humain. Mais le véritable amour que tu peux manifester à tes enfants, c'est leur accorder la possibilité d'acquérir des connaissances. D'acquérir des connaissances physico-matérielles et sociales, premièrement, et ensuite, d'acquérir la connaissance éternelle, c'est-à-dire la connaissance du Père éternel. Je crois que maintenant tu as compris la différence entre l'amour sentimental que nous prêtons à Dieu alors qu'il n'est pas sentimental, puisque ce n'est pas un homme, et l'amour connaissantiel que Dieu met à notre disposition. Son amour, c'est sa connaissance. Et j'insiste aussi en disant ceci. On a attribué à Jésus la puissance, le règne et la gloire. Mais lui-même, dans sa prière, il dit « car c'est au Père qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Donc, le règne, la puissance et la gloire n'appartiennent qu'au Fils unique de Dieu, qui est le Père éternel et qui est David le pasteur. C'est la parole. La parole. La chose la plus importante pour un être humain, c'est de connaître la vraie parole de Dieu, qui est le Père éternel, qui est notre Dieu puissant. Et je te dis, en toute chose, Dieu a fait qu'il y ait quelque chose et son contraire. Le Père éternel a son contraire. Et le contraire du Père éternel, c'est Satan la bête, qui est l'ensemble des fausses connaissances divines. Donc, on est en période de haine de l'éternel pour le monde, haine entre guillemets, puisque la haine, ce n'est pas divin. Mais lorsqu'il met à disposition de l'humanité des fausses révélations divines, en ce moment-là, l'amour de Dieu n'existe pas pour nous. Mais lorsqu'il met à notre disposition maintenant sa vraie connaissance, c'est alors que l'amour de Dieu se manifeste pour le monde. Voici pour la première partie. Bientôt va suivre la question que tu m'as posée sur les serviteurs inutiles que nous sommes. Merci, Rudy.